midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai une heure pour vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Nous sommes le 2 novembre, jour des défunts et le secteur est en mouvement. Des Français ont choisi de révolutionner le monde du funéraire, du cercueil à l'enterrement. Elle était une officine à la fin du 18e. Son fondateur a même inspiré Balzac. Bully est toujours là avec ses lotions, ses parfums. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis pour sauver les coraux, pourquoi ne pas les faire pousser sur de la dentelle. C'est la solution imaginée par un artiste et une usine de Haute-Loire. C'est la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, Justine, vous avez évidemment la parole tous les jours sur Europe 1. Venez nous dire par exemple si vous êtes prêt à changer de modèle quand on parle funérailles. La société évolue et vous allez voir que les Français s'adaptent, en tout cas pour nous proposer des solutions.
Exactement, appelez-nous si vous avez des questions ou des informations en plus. On vous attend au 39-21, 50 centimes la minute, mais aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore notre site internet europe1.fr.
Et pour accueillir nos invités à mes côtés toute cette semaine, Maud Descamps, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Et puis notre coach du jour, c'est Delphine Plisson, fondatrice de la Maison Plisson. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Merci d'être là. Parler d'essai, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat, mais c'est un moment que toutes les familles, hein, qu'on le veuille ou non, doivent affronter. Or, aujourd'hui, le marché du funéraire n'échappe pas à la digitalisation, parfois à ce qu'on appelle aussi l'ubérisation. Bonjour Philippe Méralbe.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Advitam. C'est un service de pompe funèbre en ligne. Alors ça fait 2 ans hein, maintenant que vous vous êtes vraiment lancé. Mais au départ, vous n'étiez pas du tout dans cet univers. Je crois que c'est une expérience personnelle qui vous a poussé ou donné envie, je ne sais pas, de vous investir.
Oui, tout à fait. Alors donner envie, le mot est peut-être un peu fort, mais...
Donner envie en tout cas de changer les choses.
Ça fait effectivement 3 ans, bientôt 3 ans que la société existe. Et c'est une expérience personnelle, effectivement, à l'origine, qui m'a permis de me rendre compte, en fait, de comment ça fonctionnait aujourd'hui dans ce secteur, à savoir très archaïque, et donc de proposer quelque chose de différent, de bienveillant, plus bienveillant en tous les cas que ce qui existe, et de plus moderne.
C'est-à-dire que vous avez le sentiment que aujourd'hui on est davantage dans un accompagnement traditionnel, qu'on n'a pas révolutionné le secteur, on n'a pas assez fait bouger les lignes par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres marchés.
Non, en fait, je vais même être plus direct. Aujourd'hui, on est dans de la vente, en fait. Malheureusement, quand vous perdez quelqu'un, vous allez dans une boutique et là, vous allez passer 2 heures avec un vendeur qui est intéressé par le chiffre d'affaires qu'il va faire à la fin du mois. Donc, il va essayer de vous vendre des prestations qui sont pas forcément utiles et surtout qui sont pas forcément les moins chères. Moi, c'est avant tout ça que je voulais changer en lançant Advitam. Et également, j'en ai profité après pour simplifier les choses et rendre les prix plus transparents. Alors qu'aujourd'hui, on ne connaît pas du tout les tarifs. Quoi.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en allant dans une boutique traditionnelle, finalement, on est face à un vendeur. Et pourtant, on pourrait se dire qu'en allant sur Internet, c'est plus impersonnel.
Les deux ne sont pas incompatibles, en fait. L'avantage d'être sur Internet, enfin en tous les cas sur notre site Internet, c'est que vous pouvez faire un devis de façon complètement indépendante. Il n'y a personne qui va vous dire « faites ci, faites ça, ce serait mieux de faire ci parce que c'est quand même votre mère ». Enfin voilà, le côté très...
Poussif un peu.
Vendeur, tout simplement.
Oui.
Donc en tous les cas, vous pouvez le faire en totale indépendance sur notre site Internet versus la vente dans la boutique quoi, avec le vendeur.
Maud, il faut peut-être préciser les choses, hein. Ça coûte cher aujourd'hui des funérailles.
Oui, j'étais assez surprise par les chiffres que j'ai trouvés. En moyenne en France en 2017, un enterrement des obsèques, on va dire, ça coûtait environ 3 350 €. Une inhumation, c'est 3 350 €. Une crémation, c'est un peu plus cher, c'est environ 3 610 €.
Et puis c'est vrai que le rapport à la mort, il reste tabou. Ça explique aussi peut-être pourquoi parfois certains peuvent profiter des faiblesses des familles qui sont dans la peine.
Exactement, il y a eu un sondage qui a été fait par l'IFOP en 2014 qui montre que 48% des Français pensent assez souvent à la mort, mais on sent que c'est encore un sujet un peu tabou, avec un taux plus élevé quand même chez les plus de 55 ans et aussi chez les gens qui sont pratiquants. 57% des catholiques pratiquants disent penser souvent à la mort. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que 37% des Français confient ne pas trouver d'oreille suffisamment attentive justement au moment d'un décès pour parler de la mort.
Comment elle réagit, notre coach du jour, Delphine Plisson ?
J'étais en train de me demander si je pensais souvent à la mort. Donc, effectivement, normalement, pour quelqu'un de mon âge, on va dire. Mais en l'occurrence, je me suis déjà organisée. Tout ce qui est testament et organisation d'obsèques.
Et alors, vous êtes passée par
fait.
Le net ou
Pour le testament, je suis passée par un notaire de façon traditionnelle, même si je sais que les choses évoluent aujourd'hui. Mais
oui,
je me suis rendu compte.
Tout à l'heure.
Je me suis rendu compte que finalement, c'était une démarche très simple, qui prend très peu de temps, qui ne coûte pas très cher et qui permet effectivement d'organiser les choses en amont. Je pars du principe que c'est pas parce qu'on s'organise qu'on meurt, jusqu'à preuve du contraire.
Philippe Méralbe, je vais vous poser une question un peu directe peut-être. On achète aujourd'hui une pierre tombale sur le web comme on commande une doudoune ou pas du tout?
Je pense que ça dépend vraiment, c'est personnel, c'est une démarche personnelle. Certaines personnes préfèrent aller dans une boutique pour avoir l'accompagnement du vendeur et le contact humain entre guillemets. D'autres justement sont plutôt dans le rejet de ce moment de vente et voudront être plutôt indépendants. C'est vraiment personnel, je pense.
Vous dites par rapport au prix qu'on a donné hein, avec Maud Descamps, aujourd'hui nous on peut organiser des obsèques moins chères, deux fois moins chères.
Oui, alors les prix qui ont été donnés, c'était des prix, c'était une moyenne nationale. Mmh. Il faut savoir qu'il y a des grosses disparités en fonction des régions. Notamment en Île-de-France, les prix sont bien plus élevés. On est plutôt aux alentours de 5000 euros en moyenne. Et effectivement, nous, être sur Internet, ça nous permet aussi de descendre les prix et de les diviser par deux.
Et on a un devis rapide quand on passe par vous ?
En 30 secondes sur notre site Internet.
Delphine ?
Juste une question. Donc, j'ai retenu qu'il fallait décéder ailleurs qu'en Île-de-France. J'y penserai le moment venu. Est-ce qu'on peut, via votre site, organiser ses propres obsèques en amont ou est-ce que c'est un site qui est destiné aux familles et aux accompagnants des personnes qui décédées ?
Pour l'instant, c'est uniquement destiné aux personnes qui viennent de décéder, enfin des proches. Le faire en amont, c'est une activité qui est réglementée. Il faut une habilitation d'assureur, entre guillemets, qu'on n'a pas encore. Mais on va y aller.
Alors, au fur et à mesure, évidemment, que l'entreprise grandit, vous avez aussi fait évoluer la gamme des services que vous proposez. Aujourd'hui, vous êtes également sur ce qu'on appelle la mort numérique. Vous fermez les comptes des gens qui décèdent. Ça, c'est important. On n'y pense pas forcément.
Oui, on était dans une démarche de simplification au global de l'ensemble de ces prestations-là. Donc, on a commencé par clôturer tous les comptes bancaires, tous les abonnements traditionnels du défunt, à savoir assurance habitation, électricité, Internet. Et du coup, c'est venu d'une démarche naturelle d'aller plus loin et de prendre en charge la partie réseaux sociaux. On est les seuls, au moins en France, à le faire.
Ça marche bien aujourd'hui. Ça fait 2 ans que vous êtes lancé. Vous étiez combien au départ ? Combien aujourd'hui, Philippe Méralbe ?
Au départ, j'étais seul.
Ouais.
Maintenant, on est une dizaine dans la société. Effectivement, ça marche plutôt bien parce qu'on a annoncé avoir fait une levée de fonds. Notre première levée de fonds.
1 800 000 euros, c'est ça ?
Exactement, 1 800 000 euros il y a quelques semaines.
Pour faire quoi ? Automatiser, je crois, des tâches ?
Il y a deux objectifs. Le premier, c'est aller plus loin dans les services. Donc, on parlait des réseaux sociaux, ça en fait partie, mais il y en a d'autres, des services qui vont venir.
Sortir d'Île-de-France, je suppose,
et
aussi.
Voilà, et ça, c'est le deuxième objectif, c'est ouvrir d'autres zones géographiques. Donc là, aujourd'hui, dès maintenant, on est présent en Île-de-France, à Metz, Nancy, toute la PACA et Bordeaux.
Maud, est-ce qu'il y a des concurrents directs, enfin en tout cas des structures qui font à peu près la même chose que Philippe Méralbe et Advitam ?
Pour la facilitation des démarches, il y a Facilib, alors qui n'est pas que pour le coup pour les démarches quand on décède, mais c'est d'une manière générale pour la gestion administrative, on va dire, de nos papiers. Il y a une autre société qui s'appelle Memory Forever. C'est toujours la même idée, hein, faciliter les tâches. C'est une entreprise, par exemple, qui va fleurir les tombes à distance. Ça évite aux proches de devoir se déplacer. Et puis il y a une application aussi qui s'appelle Tellement Là. Et là, le but, c'est de faciliter les démarches, mais aussi d'accompagner les proches dans leur deuil.
On reste ensemble, toujours sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1.
Choisir son monument funéraire, le personnaliser en ayant la garantie que oui, c'est fabriqué chez nous. C'est le credo de France Tombale. C'est ça aussi, la France qui bouge. À tout de suite.
Midi 30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
La France bouge jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin. Aujourd'hui, à l'occasion de la Toussaint, on parle de l'ubérisation du marché funéraire. Un sujet sur lequel vous avez peut-être envie de participer. Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 39 21, 50 centimes la minute, ou laissez-nous un tweet avec le hashtag Europe 1.
Nous sommes toujours avec Maud Descamps et avec notre coach du jour, Delphine Plisson, fondatrice de la Maison Plisson. Alors c'est vrai que perdre un être cher, c'est un moment qui est douloureux. À cela s'ajoute parfois, souvent, l'épreuve du choix, de l'urne, du cercueil, de la pierre tombale. Mais beaucoup de familles se font avoir sur les tarifs pour payer le juste prix. France Tombale s'est créée. Bonjour Jérémy Dols.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à Toulouse et votre parti pris, c'est de dire... Il y a trop d'écart entre les tarifs. Comment est-ce que vous, vous faites pour proposer des tarifs 20% moins chers ?
Effectivement, la raison d'être de France Tombale depuis le départ, c'est d'apporter une vraie transparence, notamment sur les prix. Il y a des études qui montrent que pour un produit similaire, on vend des monuments funéraires, pour un produit identique, ça peut aller de 1 à 5 fois le prix. Donc nous, ce qu'on a voulu apporter aux clients, c'est vraiment une expérience différente avec de la transparence. Pour ça, on a un module 3D sur notre site internet qui permet aux familles tranquillement installées chez elles de venir simuler gratuitement autant de monuments qu'elles le souhaitent, bien comprendre comment se construit le prix, par exemple en faisant changer les différents granits, mais également en rajoutant des options, la gravure et autres.
Donc on va sur le site de France Tombale et on choisit le granit, la taille, le modèle qu'on veut, l'inscription, on choisit tout finalement et c'est ça qui va faire évoluer le prix.
Tout à fait, on choisit tout et on voit en direct à la fois le prix qui se construit mais également le monument en 3D.
Et il y a 80 possibilités, c'est ça ?
Oui, on a 80 monuments au choix.
Donc ça, c'est dans le cas où on anticipe son décès. Je crois que vous mettez un point d'honneur aussi à ce que tout ou presque viennent de France. On a des carrières. C'est vrai que ça permet aussi de maintenir une activité chez nous, sur le territoire, en priorité dans les entreprises d'Occitanie, du granit notamment du Cidobre, c'est ça ?
Tout à fait. On a la chance, nous, à Toulouse, d'être à une heure du Cidobre, qui est un des bassins granitiques français le plus important, où notamment on extrait le granit gris du Tarn, qui est d'excellente qualité. Et du coup, vu qu'on l'extrait ici et qu'on n'a pas de transport à faire, en termes de tarifs, on est très bien placé. Et c'est vraiment ça qu'on met en avant. On travaille uniquement avec des fabricants du Cidobre, souvent des entreprises qui ont 50, 60 ans, pour leur savoir-faire. Et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant sur le site. Alors, on ne propose pas que ce granit-là, parce que ce qu'on veut aussi, c'est proposer aux familles différents choix de coloris. Donc, on importe aussi du granit du monde entier.
Mais c'est quand même 95% à peu près de ce que vous proposez, le granit de chez nous, faut bien dire.
Tout à fait, soyons fiers.
Vous êtes lancé depuis 2017, ça se passe comment ? Ça marche ?
Ça se passe très bien, on voit vraiment que l'offre en ligne était vraiment nécessaire. Nous, c'est vrai que, un petit peu comme a dit Tam, ce qu'on souhaitait faire, c'est dépoussiérer un petit peu ce secteur. C'est ce qu'on a fait en proposant une offre en ligne. Et effectivement, ça marche très fort. Là, actuellement, on est sur une dynamique de 300 monuments vendus par an. Et on prévoit de tripler, donc de passer à 900 monuments en 2020.
Maud Descamps, dans la même veine que France Tombale, vous avez trouvé d'autres entreprises qui font à peu près la même chose ?
Oui, j'ai trouvé plusieurs choses, notamment des entreprises 100% écologiques. Ça aussi, c'est quelque chose qui se développe énormément. Abcrémation et Écocerc qui proposent donc des cercueils 100% écolo, des cercueils en carton par exemple. La fondatrice d'Écocerc dit que avec plus de 500 000 décès en France par an, il faut un chêne de 80 ans pour faire 5 cercueils. Et pour elle, c'était une vraie problématique. Donc, elle a développer ces cercueils un peu particuliers.
Un commentaire de la coach, Delphine Plisson ?
Commentaire, je ne sais pas. Non, je me demandais, légalement, on a le droit d'être enterré dans n'importe quel contenant ?
Ah, bonne question. Vous avez peut-être la réponse, Jérémy Dols ?
Enfin, on est toujours enterré dans un cercueil. Ou alors, effectivement, s'il y a crémation, à ce moment-là, on...
Mais en termes de cercueil, donc vous
cercueil
parliez
en carton,
du carton
là, manifestement.
Alors ça, en toute franchise, je suis pas un spécialiste. Nous, on fait pas vraiment le carton. Nous, on travaille que du granit. Donc, on est vraiment dédié aux monuments funéraires.
Oui, là, c'est du monument. Voilà.
Ouais. Philippe Méralbe, peut-être.
Oui, je confirme. En fait, les cercueils doivent être habilités en France et les cercueils carton sont habilités. Donc, oui, on peut.
On peut. Alors, on a un appel au 3921. C'est Ghislaine qui nous appelle de Boulogne-sur-Mer. Bonjour, Ghislaine.
Bonjour. Voilà, c'est un témoignage.
Oui.
J'ai perdu mon papa il y a 4 ans et on est passé par les voies traditionnelles, c'est-à-dire l'accompagnement, tout s'est fait sur si je puis dire, sur place. Et je trouve ça très très important, quoi. Moi, le passage par Internet, par pour moi, c'est inhumain, quoi. Moi, je trouve que ça reste très important d'avoir affaire à quelqu'un qui est présent pour vous et qui s'occupe de tout en votre présence, qui vous accompagne. Et je trouve ça... c'est plus calme, c'est plus facile pour les gens à ce moment-là.
Alors, on va demander à Philippe Mérabe, qui est avec nous, d'Ad Vitam, de vous répondre. Il y a une possibilité, je suppose, Philippe, d'avoir un contact avec vous direct,
oui,
aussi.
C'est une très bonne remarque, effectivement, j'aurais dû le préciser. Internet nous sert uniquement à fournir un devis de façon très rapide et indépendante, mais derrière, on a un contact et on a un accompagnement avec l'ensemble des familles qui font appel à nos services, c'est une évidence. On ne fait rien 100% sur Internet, enfin en tous les cas sur ce secteur-là.
Merci beaucoup Guylaine de nous avoir appelé. C'est Guylaine et pas Ghislaine, hein, de Boulogne-sur-Mer qui nous a contacté au 39-21. Vous pouvez évidemment continuer à le faire, Justine.
Il est 13h18.
Europe 1.
Il y a des pays où le jour des obsèques est une fête. Pour changer la cérémonie, Elitchi a pensé à la musique. C'est ça aussi la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1.
Midi 30, 14h.
Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Vous êtes avec Raphaël Duchemin sur Europe 1 avec La France bouge. Aujourd'hui, pour la Toussaint, on s'intéresse au marché funéraire qui s'ubérise. Un sujet qui vous est ouvert à vous aussi. Vous pouvez participer en laissant un message sur Twitter ou bien en nous appelant au 39-21, 50 centimes la minute.
Toujours avec Maud Descamps qui m'accompagne toute cette semaine et avec la coach du jour, Delphine Plisson. On parle donc des funérailles. Et c'est vrai qu'accompagner un défunt, c'est un moment particulier. Dans chaque pays, il y a un rituel différent en fonction des croyances, de la religion. C'est parfois triste, c'est parfois beaucoup plus joyeux. C'est pour accompagner ces moments-là qu'Elitchi s'est créé. Bonjour Aliette Frangy.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui avez fondé cette entreprise pour que les familles puissent choisir un musicien, un chanteur, quel que soit finalement le type de cérémonie. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée ?
Alors, en fait, assez naturellement, moi, je joue du violon depuis très longtemps. Et en me rendant compte que les gens organisent quand même des très belles choses pour des événements joyeux, comme des mariages, des baptêmes ou autres, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pour les funérailles, il n'y a pas ce même engouement de faire quelque chose de beau? Et voilà, alors que c'est quand même un moment très important, hein, on résume la vie d'une personne. Donc voilà, j'ai décidé de proposer aux familles de choisir des instrumentistes et ou chanteurs pour la cérémonie, pour interpréter les musiques de leur choix.
C'est vrai qu'on entend par exemple parler au Mexique du Día de los Muertos, où le défunt est célébré. On a tous aussi en tête les chants gospel. On va aujourd'hui beaucoup plus vers ça.
En fait, on est vraiment aujourd'hui sur l'hommage à la vie. On n'est pas là pour célébrer la mort, mais pour voilà, rappeler tous les bons souvenirs qu'on a partagés avec le défunt. Faire quelque chose qui nous ressemble aussi. Et voilà, on va vers peut-être un peu un côté plus tourné vers l'espoir. Voilà, donc effectivement, de plus en plus de familles souhaitent du gospel. On est très influencé par les États-Unis, ça c'est sûr.
Vous êtes sur le marché depuis 2014. Est-ce que justement vous avez vu les habitudes finalement changer, évoluer ?
Je pense qu'effectivement, alors oui, effectivement, de plus en plus de familles nous demandent des choses du type jazz, gospel, procession façon Nouvelle-Orléans dans les cimetières, par exemple. C'est quand même très sympa, en fait, hein. On peut le dire. et après, on a aussi tout un tas de personnes qui restent très de manière très traditionnelle et très conventionnelle, mais on peut quand même faire des choses très belles avec ça.
Maud Descamps.
Alors justement, une petite curiosité, est-ce qu'il y a une chanson, une musique qui est particulièrement demandée ?
Il y en a plusieurs. Tout dépend de... effectivement, dans la chanson française, par exemple, on va avoir « Puisque tu pars » de Goldman. On a aussi souvent des familles qui aiment Luis Mariano. « Maman, tu es la plus belle du monde ». Voilà, ça c'est vraiment des choses qui marquent beaucoup et qui plaisent beaucoup. Et puis les Ave Maria. Ça, c'est
traditionnel,
incontournable.
Delphine Plisson.
J'étais en train de me dire qu'à chaque fois que j'avais assisté à un enterrement, il y avait eu Jeff Buckley, Alléluia. J'ai l'impression que c'est une sorte de rituel. Je me prépare au pire, parce que c'est une chanson que j'aime pas du tout, personnellement.
Tout à fait.
Je vais me débrouiller pour qu'elle soit pas là, ce jour-là.
Il faut le marquer dans le testament.
Je vais le préciser. Je suis en train d'y penser.
Et d'ailleurs, elle n'est pas du tout adaptée, en réalité.
Exactement. Mais c'est vrai qu'elle est très utilisée dans les moments important de la vie et qu'elle est très décalée quand on connaît le texte.
Absolument.
Ce qui m'amuse toujours. J'avais juste une réflexion. J'ai l'impression, il y a toujours de la musique dans les enterrements. Ce que vous proposez, c'est le fait qu'elle soit jouée en live.
Tout à fait. C'est ça. C'est vraiment le live.
Des chanteurs, des musiciens. Vous les sélectionnez comment d'ailleurs?
Alors, on les auditionne. C'est très important. On les auditionne et on les rencontre. Il faut s'assurer que, bien sûr, musicalement, ils apportent de la qualité, mais aussi de la sensibilité et, bien sûr, de la fiabilité. On ne peut pas envoyer n'importe qui sur le lieu des obsèques dans ces conditions particulières.
Vous avez pensé à exporter le modèle, justement, ailleurs qu'en France ?
Tout à fait. Pour l'instant, pour l'instant, on essaye déjà de répondre à toutes les demandes sur le territoire français et c'est pas une mince affaire. On est pour l'instant présent dans 5 villes et je pense que l'étape suivante sera bien sûr d'aller peut-être à Londres, à Genève.
À Londres, à Genève.
À Bruxelles.
Et pourquoi pas,
ailleurs,
pas plus loin.
Pourquoi pas aux États-Unis.
Philippe Méralbe, vous connaissiez Elitchi?
Oui, on se connaît bien et d'ailleurs on travaille ensemble déjà. Donc, oui. Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vous demander, j'aimerais de la musique et vous vous tournez vers
tout à fait.
Vers Aller de Franchi.
Voilà.
Alors on est en ligne avec Tom qui nous appelle de Paris et qui lui aussi est sur ce marché. Bonjour Tom.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête de la start-up Yes Drive Me. Racontez-moi qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites?
Ben, Yes Drive Me, en fait, c'est simplement la première plateforme de location de chauffeurs. Mais cette fois-ci, c'est des chauffeurs qui n'ont pas de voiture et qui conduisent les propriétaires de voitures dans leur propre voiture. Et il s'est avéré que c'est un service qui est fortement apprécié par les seniors.
Oui.
Donc 70% de notre clientèle a plus de 70 ans. Et donc, on les accompagne, en fait, dans tous les déplacements.
Donc, vous êtes en train de me dire, Tom, que, en fait, vous les amenez assez régulièrement aux obsèques, aux funérailles.
Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'on les accompagne dans tous les moments, heureux, un peu malheureux. Et bien, ça nous a semblé naturel de les accompagner aussi à la fin de vie de proches et dans aux obsèques. Voilà.
Oui, c'est vrai ça, que c'est un service souvent auquel on pense pas forcément. Merci Tom de nous l'avoir signalé. On reste ensemble, on continue à parler des funérailles sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Rédiger son testament, tiens, ça c'est pour vous Delphine, c'est un passage obligé si on ne veut pas laisser de problème à ses héritiers. Là aussi, vous allez le voir, le secteur bouge et s'invite sur le net.
Pour la Toussaint, on s'intéresse aux Français qui révolutionnent le marché du funéraire dans La France bouge avec Raphaël Duchemin. N'oubliez pas, bien sûr, que l'antenne vous est ouverte. Vous pouvez nous appeler au 39-21, 50 centimes la minute, ou alors nous envoyer un message sur Twitter.
Oui, évidemment, nous sommes toujours avec Maud Descamps, avec Delphine Plisson, la coach du jour, avec Philippe Méralbe, fondateur d'Advitam, Jérémy Dols, qui est en ligne depuis Toulouse, cofondateur de France Tombale, Aliette Frangy, fondatrice d'Elitchi. C'est vrai que rédiger, et on en parlait dès le début de cette émission, Delphine Plisson avec vous, rédiger son testament, passer chez le notaire pour pouvoir léguer ses biens à ses héritiers en bonne et due forme, c'est un passage obligé, hein, mais ça peut s'avérer, en fonction de ce qu'on a à léguer et de l'importance de la succession, assez coûteux. Tant et si bien qu'il y a certaines familles qui y renoncent. Bonjour Virgile Delporte.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Testamento en décembre 2013 pour démocratiser tout simplement l'usage du testament en ligne.
Absolument. En fait, nous, on a décidé de commencer justement par le sujet du testament parce qu'il nous semblait urgent de s'y intéresser. Moi, je me suis intéressé à ce sujet la veille d'un départ pour un trek où je partais avec ma femme sans les enfants et on a décidé de faire un testament. Et au retour du trek, je l'ai présenté à un notaire et puis un peu comme Delphine, ça me paraissait important de le faire. Il m'a dit bonne initiative, mais votre document n'a aucune valeur juridique.
Ah oui, vous aviez tout faux dans la façon dont vous aviez rédigé les choses.
Exactement, j'avais cherché des informations sur Internet et j'avais trouvé des informations à droite et à gauche, mais pas un endroit où fiable sur lequel m'a préparé cette formalité.
Oui, donc il suffit pas, et ça on va tordre le cou à une idée reçue, d'écrire ses dernières volontés sur un papier pour que ce soit effectif.
Il y a vraiment des règles de forme et de fond qui font que dans la plupart des cas, les gens qui essayent de le faire tout seul, en fait, ça conduit à des documents qui n'ont soit aucune valeur juridique, soit créent des conflits supplémentaires dans la succession. Alors qu'évidemment, l'objectif au départ d'un testament, c'est de réduire les conflits.
Dites-moi, passer chez un notaire, c'est cher. C'est pour ça qu'il y a 90% des successions aujourd'hui en France qui se font sans testament ?
Exactement. En fait, 90% des successions sont mal préparées. Pourtant, en fait, préparer un testament, c'est pas forcément très coûteux, mais on sait jamais
le
trop combien ça va coûter.
Le testament lui-même, Delphine me dit, c'est pas cher du tout, c'est quelques dizaines d'euros.
Alors, ça va dépendre, justement, et c'est probablement un petit peu ce qui rejoint le premier sujet hein, avec Aditane, c'est
oui.
la transparence, c'est qu'on ne sait pas combien ça va coûter. Ça peut être pas cher lorsqu'on fait une acquisition d'un bien immobilier, où le notaire va proposer cette prestation. Si on va le voir, nous, on a des gens qui nous appellent et qui nous disent, voilà, j'ai un notaire qui m'a proposé de faire un testament pour 200, 300, 400, 500, 600 euros. Mmh. On n'a jamais trop de visibilité. Et nous, l'idée, c'était de générer un service, de proposer un service où les tarifs sont connus dès le moment où on entre sur la plateforme Testamento.
Maud Descamps ?
Moi, j'ai aucune idée, par exemple, de ce que j'aurais envie de mettre dans mon testament. Est-ce que vous proposez un accompagnement là-dessus ? Est-ce qu'il y a des questionnaires ? Est-ce que vous suggérez des choses pour savoir ce qu'on doit écrire ?
Alors, c'est justement tout l'intérêt de Testamento.fr. C'est d'abord, vous allez comprendre l'intérêt d'un testament, parce qu'il y a plus ou moins d'importance à le faire en fonction de la situation dans laquelle on est. Par exemple, lorsqu'on est paxé, c'est urgent d'y penser. Lorsqu'on a une famille recomposée également. Donc d'abord, on a un diagnostic qui est gratuit, qui s'appelle le kit info succession. Et puis, en deuxième lieu, donc c'est toujours basé sur des questions. On pose des questions contextuelles. Ces questions remettent un rapport. Et depuis ce rapport, ce bilan, on va pouvoir agir. Faire un testament, par exemple, on peut aussi. Il y a d'autres services sur Testamento, mais effectivement, c'est basé sur des questions et à la base, sur la base de ces réponses, il y a un algorithme qui va générer le modèle de testament qui vous convient.
Virgile Delporte, il y a des levées de fonds qui sont prévues ?
Alors, on en a déjà fait réaliser une première en 2015 de 350 000 euros. On a une opération qui est également en cours. Donc oui, l'objectif pour nous, c'est de passer de l'étape de preuve de concept de premier déploiement qu'on appelle en B2C, donc le grand public, oui. les auditeurs peuvent se rendre sur la plateforme. Et nous, pour nous, l'enjeu, c'est de déployer tous ces services avec des assureurs, avec des mutuelles, avec des banques qui ont tout intérêt à ce que leurs clients anticipent leur succession pour mieux les connaître et pour être en conformité avec la loi. Je parle juste un instant de la clause bénéficiaire.
Oui.
Vous connaissez les sujets de clause bénéficiaire de contrats d'assurance vie.
Bien sûr.
Il y a également des contrats de clause bénéficiaire sur des contrats collectifs. Et la plupart de ces clauses, en fait, ne sont pas revues régulièrement ou ne sont pas gérées du tout. Et on a développé des modules qui permettent de bien gérer tous ces sujets de gestion de clauses bénéficiaires dans le temps.
Alors, il y a Delphine Plisson qui vous a écouté avec beaucoup d'intérêt, parce que, comme elle l'a dit dès le départ, elle a fait déjà un testament. Delphine, ça vous inspire quoi, ce que vient de dire Virgile ?
Vous entendez surtout dire que 90% des obsèques étaient organisées sans testament. Je pense pas que ça soit une question d'argent. Je crois que c'est aussi une question de peur et que les gens ont sans doute un peu de mal à envisager de rédiger leur testament comme si ça allait leur porter la poisse. Dans les faits, je pense que c'est important de rappeler aussi que quand on est, par exemple, puisque c'est mon cas, à la tête avec mon mari d'une famille multi-recomposée, c'est un vrai sujet que de pouvoir épargner les personnes qui nous survivront de certaines contraintes et de certains problèmes. En l'occurrence, on l'ignore souvent avant d'y être confronté et j'insiste, je pense que c'est important de s'intéresser à ces sujets-là et que ça ne porte pas spécialement malheur, je suis toujours là.
Il y a des raisons, des chiffres notamment.
Vous parlez de la peur et en effet, moi, j'ai vu un sondage, 21% des Français disent avoir peur de la mort.
Philippe Méralbe, Aliette Sangi, la peur de la mort, c'est quelque chose qui peut freiner les gens qui nous écoutent, par exemple, en ce moment et qui auraient peut-être la possibilité de faire des démarches.
Alors oui, il y a effectivement en France, ça reste un sujet tabou, hein, on est d'accord. Après, ça l'est de moins en moins. Il suffit de voir le nombre de personnes qui préparent à l'avance en prenant des contrats obsèques. Il y en a de plus en plus en France. Et on est très loin des chiffres qu'on peut voir dans les autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où on est à 80-90% de contrats obsèques.
Et ça, vous l'expliquez comment? Pourquoi est-ce qu'on a,
c'est culturel, c'est le christianisme.
Même chose qu'avec la musique, finalement, Aliette Frangy.
Oui, alors moi, je suis quand même surprise de voir que y a de plus en plus de personnes quand même préparent à l'avance. Et notamment, nous, on reçoit parfois tout un déroulé précis avec les musiques, les chansons, etc. Donc les gens veulent quand même quelque part aussi avoir une sorte de contrôle sur comment va se dérouler cette cérémonie, ou peut-être aussi, peut-être que ça les apaise aussi de la préparer à l'avance.
Delphine Plisson.
Je pense que ça nous est tous arrivé d'assister à l'enterrement d'un proche en se disant « mais il n'aurait pas du tout aimé cette musique ». Je pense que ce n'est pas idiot de pouvoir préparer soi-même effectivement son départ dans les meilleures conditions.
Jérémy Dols de France Tombale qui est toujours avec nous depuis Toulouse.
Oui, mais nous c'est pareil, on constate qu'il y a à peu près 50% des commandes qui sont passées en prévision. Et le but essentiel, c'est de ne pas laisser cette tâche à ses enfants.
C'est ce qu'on... Ah oui. De pas laisser, oui, effectivement, la gestion pour des questions de financières, évidemment, et aussi de...
De choix aussi.
Oui, de charge. C'est une charge émotionnelle qui est déjà très forte. Hein.
On n'a pas du tout... Moi, j'ai beaucoup d'enfants à la maison et la seule raison pour laquelle je me suis organisée, c'est de leur épargner au moins ça. J'espère qu'ils seront désolés de mon départ, mais je n'ai pas en plus envie de leur imposer des contraintes administratives, financières de fait et d'organisation. Enfin, je pense qu'ils auront autre chose à faire, boire en l'occurrence.
Si on met bout à bout... tous les services qui sont proposés autour de cette table. Virgile Delporte, un testament classique, ça coûte combien aujourd'hui?
Alors, donc sur notre plateforme, ça va coûter 69,90€, incluant un enregistrement par un notaire.
Oui.
Donc ça, c'est important pour nous, hein, et la plupart de nos clients choisissent cette option. Et comme je l'évoquais, on n'a pas trop de visibilité lorsqu'on va chez un notaire, même si leurs services sont très très bien. J'insiste évidemment sur le fait que rencontrer un notaire, c'est très bien.
Jérémy Dols, même question. Aujourd'hui, à moindre frais, on peut avoir un monument funéraire. Ça va de combien à combien, la fourchette moyenne?
La moyenne, nous, constatée chez nous, avec un monument posé, c'est 2 500 €. Mais on a des monuments qui commencent à partir de 1 000 €. Et puis après, si on veut des choses très complexes, ça peut arriver. Enfin, on peut aller jusqu'à 5 000-6 000 €.
Oui, vous avez même des propositions paysagées, hein, je crois.
Tout à fait.
Même question pour vous, Aliette Frangy. Si on veut organiser une cérémonie musicale, là aussi, ça va varier en fonction du nombre de chanteurs, du choix de musique.
Voilà, surtout du nombre de chanteurs, chanteurs ou instrumentistes. Donc, c'est globalement de 350 € et on va en règle générale jusqu'à 2 000 €.
Et même question à vous, Philippe Méralbe. Si on veut tout gérer en ligne et ne pas s'imposer une visite, qu'est-ce qu'on fait? On vient vous voir et ça coûte combien, cette gestion des funérailles?
Chez nous, une cérémonie intégrale qui inclut l'ensemble des taxes, tout ce qu'il faut, ça commence à 1 700 €. Et on est plutôt en moyenne aux alentours de 2005.
Merci à tous d'être venus nous parler de vos entreprises, de vos services, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui évolue, qui change aussi avec nous, avec vous. Merci d'être venus en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h40.
Europe 1. Bully a perdu un L avec le temps, mais l'officine a traversé les âges. Elle renaît aujourd'hui. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
La France Bouge continue avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est le moment de parler de l'entreprise qui va bien. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours participer à l'émission en appelant le 39-21, 50 centimes la minute, ou alors sur Twitter.
Et l'entreprise qui va bien, merci, a en quelque sorte traversé le temps. C'est vous qui avez redonné vie à Bully. Bonjour Ramdan Touami.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Bully avec deux L. À l'époque, c'était l'officine de Jean-Vincent Bully qui, en 1803, si les dates sont bonnes, lance les soins, les lotions, les vinaigres de toilette. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce secteur-là? Ça vous passionnait?
Ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur, donc c'est pas un hasard avec ma femme.
Aller remettre...
J'avais fait Cire Trudon avant, les gens s'en rappellent. J'avais relancé Cire Trudon, qui s'appelait Cire, qui était Carrière Industrie Réunie, qui existait depuis 1643, qui était l'ancienne manufacture royale des cires, donc qui existait, qui faisait du B2B, qui fabriquait toutes les bougies d'église. Donc c'était très marrant, j'avais les clés de toutes les églises de France.
Bah dites-moi.
C'était assez marrant. Les gens savent pas comment ça marche, mais on avait toutes les clés, on devait livrer avant les ouvertures des églises. Et donc on était leader et ensuite j'ai relancé ça. Ça a très bien marché, mais j'avais un associé malheureusement avec qui je ne m'entendais pas.
Bon, c'est donc, de l'histoire ancienne maintenant.
Tout à fait. Et je suis parti aux États-Unis lancer Cyr Trudon. On s'est pas entendu à distance. Donc j'ai vendu mes parts et je me suis lancé dans une autre aventure grâce à Arnaud Montebourg.
Eh oui, pour notre plus grand plaisir, parce que c'est vrai que c'est une vieille marque, une marque célèbre. Le fondateur à l'époque a inspiré évidemment le personnage de César Birotteau, Honoré de Balzac, 1837. Je crois qu'il y a une histoire hein, d'ailleurs avec César Birotteau. On vous a comparé à lui, non? C'est un
Arnaud,
peu ça qui...
C'est Arnaud qui m'appelait César Birotteau quand je faisais Cyr Trudon. J'étais là, mais pourquoi il m'appelle César Birotteau? J'ai lu César Birotteau et ensuite j'ai fait un truc assez bizarre. J'ai fait des recherches. Je me suis dit, mais comment, de qui s'est inspiré Balzac? J'ai découvert Jean-Vincent Bully et j'ai découvert...
Et la coup de cœur.
Il y avait un produit qui existait, qui était le célèbre vinette de toilette, qui a toujours existé, qui était encore vendu jusqu'à l'année dernière en Colombie. C'est un produit qui existait encore, et donc on a repris, puis on a avec Victoire, ma femme, on a tout relancé.
Alors vous avez tout relancé, vous avez gardé quand même les produits traditionnels, effectivement. En tout cas, vous les avez remis au goût du jour.
Alors, à l'époque, il n'y avait vraiment qu'un seul produit. Vraiment, c'était un vinaigre de toilette, qui était pour les cheveux, qui était pas terrible. C'est marrant parce que j'ai une anecdote. Lorsqu'on a ouvert la boutique, on a réouvert la boutique, on va dire, rue Bonaparte, on a une dame de 96 ans qui est venue de province parce qu'elle voulait absolument sentir le vinaigre de toilette parce qu'elle avait grandi avec ce produit. Sa mère lui achetait et on l'avait plus, donc elle était très, très furieuse. Elle nous a crié dessus, d'ailleurs, ce jour-là. Et voilà, l'idée, c'était de s'en inspirer et de faire des meilleurs produits.
Mais quand on pousse la porte d'une de vos boutiques, on est quand même un bond d'arrière dans le 19e, hein, non? Un peu.
Moi, je vends la France, je vends Paris, je vends
l'histoire.
J'ai toujours travaillé sur ce système, cette idée de l'hyperréalisme. J'essaie de réfléchir sur les fantasmes qu'ont les gens sur la France. C'est un peu voilà. Si vous allez à New York,
nous tous des fantasmes qu'on a alors. Parce que
il y a des fantasmes,
si
je veux dire, de shopping. Si vous allez à New York, vous n'allez pas chercher le 18e siècle. Vous allez chercher les années 20, les années 30, les skyscrapers, les grandes tours. Quand vous allez à Londres, vous allez chercher l'époque victorienne. Quand vous allez à Tokyo, vous allez chercher un truc bien particulier, le modernisme. Quand vous allez à Paris, vous cherchez le 18e et le 19e. C'est là où on a été les plus forts. Donc je travaille sur cette idée d'hyperréalisme où quand vraiment je me dis le rêve des gens c'est d'avoir ça. Puis voilà, il y a vraiment à Paris, voilà, il faut vraiment une ADN très particulière à Paris.
Qu'est-ce qu'elle dit la coach Delphine Plisson? Elle connaît évidemment.
En l'occurrence, je connais évidemment et je suis cliente évidemment, en particulier assez précisément parce que quand on rentre dans la boutique, on est ailleurs, on est dans un endroit qui est assez unique, qui propose une expérience, un univers, quelque chose de très personnel et de très incarné et de parfaitement opposé aux grandes chaînes de cosmétiques et de parfums. Donc je pense qu'on a de plus en plus envie de remettre du sens, de trouver des valeurs, de trouver du plaisir et d'être dans quelque chose de sincère et de, je pense aux savons en particulier parce que je trouve que c'est des produits qui sont merveilleusement désuets et merveilleusement indispensables. Et que quand on reçoit ou on offre un produit de Bully, il se passe quelque chose de très personnel.
Ramdam Touami, 60 salariés en France, 2000, c'est ça dans le monde
200,
aujourd'hui
200, vous avez rajouté un zéro. 200
ou 2, je dis 2 milliards. Je m'emballe.
12 milliards de chiffre d'affaires.
Je vois déjà très loin.
Vous avez vu.
Non, mais vous avez 2000, n'importe quoi. Vous avez repris en 2014, c'est ça?
On a relancé ça en 2014.
Moi, je suis visionnaire pour vous. Vous avez vu. Hein,
mais ça sera le cas peut-être dans le futur. Mais on va ralentir un peu la cadence parce que 200 employés, c'est déjà beaucoup de travail.
C'est quoi la suite alors?
Elle le sait. Ouais. La Suisse. On revient sur l'expérience. Les gens savent pas, mais quand vous venez dans notre boutique, tout est calligraphié. Il y a des cours obligatoires de calligraphie. On ne garde pas les employés qui ne savent pas écrire. On donne des cours. On leur apprend des langues. La différence qu'on a vraiment nous par rapport à beaucoup d'autres gens, c'est que chez nous, les vendeurs sont les gens les plus importants. Les plus gros salaires dans notre société sont les vendeurs. Et c'est un peu devenu l'ouvrier, un peu comme dans les usines du retail, c'est-à-dire de tout ce qui est la distribution. On traite vraiment les vendeurs. Les gens les plus importants qui sont les vendeurs sont les plus maltraités, les moins bien payés. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé.
Et oui, parce que c'est le vendeur qui va mettre en valeur le produit.
Ce n'est plus un métier. C'est vraiment quelque chose, quand vous allez, en général, vous allez chez les autres, le vendeur, c'est le gars, c'est un étudiant, il a allez, on va faire vendeur. Quelqu'un qui galère, il dit, bah, tu vas faire serveur ou vendeur. Ce sont deux métiers très importants. Or, c'est des métiers qui, pour moi, sont la base. Donc, ici, on a tout inversé. Chez nous, chez Bully, en tout cas, à l'Office Universel Bully, dans les bureaux, les gens veulent pas travailler, ils veulent travailler dans les boutiques parce qu'il y a les plus gros salaires. On a créé un système de bonus qui est assez incroyable. J'ai vu les fiches de paye hier, j'ai halluciné. Il y a des gens qui gagnent vraiment très bien leur vie chez nous. Et lorsqu'on va dans les boutiques, ça se ressent parce que il y a tout. Une expérience unique.
C'est un univers que de pousser la porte de l'officine universelle Bully 1803. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h48.
Et si la dentelle servait de tuteur au corail pour qu'il repousse, c'est l'idée d'un artiste et d'une usine de Haute-Loire. C'est la solution pour stopper sa destruction.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin, une émission à laquelle vous pouvez participer grâce au 39-21, 50 centimes la minute, ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et tout de suite, c'est la solution du jour.
Comment sauver le corail, menacé notamment par le réchauffement climatique, et empêcher en même temps une usine de s'étioler et lui redonner en quelque sorte vie. A priori, c'est vrai qu'on ne voit pas le lien entre les deux. Pourtant, Maude Descamps, ces deux univers sont désormais indissociables grâce à un artiste plasticien.
Exactement, et cet artiste, c'est vous, Jérémy Gobet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez mis au point une solution qui permet donc de sauver le corail en le faisant pousser sur de la dentelle produite au Puy-en-Velay. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ?
Oui, alors pour l'instant, c'est en tout cas une belle aventure et une lancée. L'idée, c'était de relier vraiment l'art, la science et l'industrie autour d'un projet à la fois porteur, à la fois viable économiquement et qui est un modèle pour la société. Moi, je suis artiste plasticien, donc j'ai deux sources d'inspiration dans mon travail qui sont les usines en fermeture, les savoir-faire oubliés, que j'essaye de remettre en jeu à travers des œuvres et de montrer en quoi ils ont encore des résonances avec notre société contemporaine. Et aller aussi chiner des objets, des matières auxquelles je sens qu'il y a encore un pouvoir de création autour. Et ces deux éléments se sont combinés lorsque HS Projet, qui a organisé le Festival International des Textiles Extraordinaires à Clermont-Ferrand, m'a invité à faire une carte blanche. Et j'ai entendu parler de la Scope Fontanil. Et à la première visite de cette usine, j'ai découvert le point de dentelle local, qui est le point d'esprit, et qui ressemble vraiment au niveau du motif à un des squelettes coralliens que j'utilisais dans mes œuvres plastiques. Et du coup, je connaissais beaucoup l'état des coraux à travers chaque sculpture, et je connaissais l'urgence aussi environnementale qui était liée au corail, et tout de suite, ça a fait tilt. Je me suis dit, il faut associer les deux. Et après, avec Isabelle Lomar-Coulon du Muséum d'Histoire Naturelle, on a créé un protocole scientifique, et c'est là que l'aventure a commencé.
Donc ça veut dire que la dentelle ressemble au corail, et que vous vous êtes dit, on peut s'en servir de tuteur, c'est ça, pour le faire pousser, repousser par-dessus.
Ouais, en fait, le point d'esprit, le motif traditionnel de la dentelle, ressemble vraiment au motif qui est créé par le squelette. Le corail, c'est un organisme animal très complexe, et il produit lui-même un squelette, et ce squelette, en fait, le crée un motif. Et quand j'en ai parlé à Isabelle Domar-Coulon, elle m'a expliqué que la recherche actuelle en biologie marine autour du corail pour sa préservation, c'était de trouver ce qu'on appelle un substrat, un tuteur en fait, pour le dire autrement, pour développer du corail et pouvoir développer des nouvelles colonies.
Delphine ? Elle est totalement interdite.
Oui, ouais. Oui, je suis complètement interdite. Je suis consciente a priori des problèmes environnementaux, en particulier touchant le corail, mais je n'imaginais pas. Alors concrètement, ça se passe comment ? C'est-à-dire que à quel moment la dentelle sert de où, quand, comment ? Enfin,
oui, plus concrètement. Dans nos protocoles de recherche, il y a deux stades. Il y a le stade de ce qui s'appelle la bouture. En fait, on prend une colonie de corail, un morceau assez gros de corail. Donc on va couper, réaliser une bouture. C'est-à-dire, on coupe un morceau qu'on dépose sur la dentelle Et en fait, on voit comment les deux rentrent en cohésion et comment le corail cicatrise. Et en fait, l'avantage aussi, ce que j'ai pas dit pour la dentelle, c'est que c'est en coton. Et le coton, c'est biodégradable dans l'eau. C'est donc ça. Là, on est en train de tester, de vérifier. Mais normalement, l'idée, c'est que ça ne développe, ça, en se dégradant, le moment où le corail se développe, il se dégrade. Et normalement, il ne devra pas rejeter de substances chimiques.
Au corail, voilà. C'est comme une greffe entre le corail et le coton.
Exactement. Comme
coton.
Un tuteur, en fait, c'est vraiment une surface.
Ouais, détruit au bout d'un moment.
Exactement.
Pour laisser la place au corail.
Tout à fait.
Et l'idée, là, c'est ensuite de réintroduire, du coup, ce corail dans un milieu naturel?
Alors, il y a plusieurs stades. Là, le stade où on en est, on a testé, donc, je parlais des boutures. Il y a aussi les larves, en fait, des larves de corail qu'on dépose sur la dentelle et qui, in fine, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elles se développent et créent des nouvelles colonies. Donc, ça permet, en fait, ce qu'on appelle, c'est un peu comme les fermes de corail. Il y a déjà des développements de corail. Sauf que là, l'idée, c'est d'avoir un matériau écologique. Donc il y a ce stade-là, le stade de préservation des espèces aussi, parce que ça c'est très important, parce qu'il y a des espèces de coraux qui sont tellement menacées qu'elles vont disparaître, donc ça permettra d'avoir des espèces de coraux en bon état et de les conserver. Et après, in fine, une fois qu'on a réussi à développer des colonies de corail sur la dentelle, pourquoi pas essayer de les réintroduire
sur
le récif.
C'est pour quand, cette réintroduction? Ouais. C'est bientôt?
C'est à l'échelle de l'humanité, c'est bientôt. Mais oui. En fait, là, pour l'instant,
le test. Je parle du test.
En gros, là, on a fait tous les tests en laboratoire, mm-hmm. qui commencent à être vraiment concluants, et on part le mois prochain en mer Rouge pour faire des tests in situ.
Donc, en décembre, il y aura un petit bout de dentelle corail, on va l'appeler comme ça,
ouais.
au fond de la mer.
Ouais.
Alors, on a parlé de la Scop Fontani, donc qui produit cette dentelle. Mais quand ils vous ont vu arriver, vous leur avez dit « je vais faire pousser du corail », ils vous ont dit quoi ?
En fait, c'est un peu l'inspiration de mon travail, c'est ça, c'est d'arriver à créer un langage commun. Donc, avec les industriels, les artisans, c'est toujours comme ça. C'est un artiste plasticien qui arrive, il y a forcément un a priori. Donc d'abord, j'ai voulu comprendre et apprendre leur technique et leur savoir-faire, leurs contraintes aussi, pour pouvoir développer un projet. Donc en gros, il y a eu cette phase d'apprivoisement. Et voilà, je suis arrivé en montrant patte blanche et en montrant que j'étais là pour collaborer avec eux et pas leur imposer une idée. Donc ça s'est fait assez naturellement finalement.
Avec donc la coopérative Fontani au Puy-en-Velay. Merci Jérémy Gobet. On va suivre évidemment sur Europe 1 la suite de cette dentelle corail et de son aventure. Merci à Delphine Plisson d'avoir été notre coach du jour. Merci à Maude qui m'a accompagnée toute la semaine. Lundi, c'est Elisabeth qui sera à mes côtés. Et nous vous préparons une semaine spéciale à l'occasion du salon Made in France. Je ne vous en dis pas plus.
Merci Raphaël Duchemin. Rendez-vous lundi. Et puis bien sûr, votre vendredi continue avec l'arrivée à 14h de Christophe Fondelatte pour une nouvelle histoire, celle de Stéphane Moitoiré.